Vogue de la Grande Matinale vous emmène jusqu'à 10h au menu littérature, géopolitique, vitriol et renard, vous allez voir. Charline Vanhoenacker fera le bilan de la campagne des municipales. Daphné Burki nous présentera le jeune réalisateur belge Valérie Carnoy. Son premier film sort la semaine prochaine. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Si comme moi, vous avez entendu le premier ministre espagnol clamer non à la guerre. Si comme moi, vous vous demandez pourquoi l'Espagne est devenue une figure de proue de la résistance à l'Amérique trumpiste. Et bien écoutez cette discussion tout à l'heure, elle vous donnera quelques clés. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
On peut lire tous les portraits de femmes écrits par Chantal Thomas. Si on n'a pas lu celui de sa mère, Jackie, on ne les comprend pas. On peut lire toutes les pages de Chantal Thomas sur la Côte d'Azur. Si on ne sait pas que Jackie y a réinventé sa vie, on ne les comprend pas. On peut lire tous les textes de Chantal Thomas sur la Méditerranée. Si on ne sait pas qu'elle se baigne dans la mer, M-E-R, et dans la mer, M-E-R-E, on ne les comprend pas. Chantal Thomas décrit mieux que personne le sentiment du bleu et le chatoiement du orange. Forcément, les couleurs ont sauvé sa mère du noir de la dépression. Chantal Thomas, grande écrivaine, membre de l'Académie française, portrait numéro 105. Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur France Inter. Je vais vous poser une question toute simple, mais qui me hante depuis plusieurs jours. Comment parvient-on à faire le portrait de sa mère en seulement 15 pages ?
Peut-être parce que c'est un portrait intérieur qui s'écrit en nous, à notre insu. Et au moment de vraiment le réaliser, il est là, il est déjà là. C'est peut-être quelque chose entre la mémoire et des sortes de flashs du quotidien qui se combinent en un texte.
Elle s'appelait Jacqueline Thomas, elle est née juste après la Première Guerre mondiale, ce qui fait d'elle une femme du XXe siècle, contrairement aux autres femmes que vous racontez dans ce livre, « Femmes sur fond d'azur » qui paraît au Seuil avec un magnifique tableau de Matisse en couverture. Contrairement à ces femmes que vous racontez aussi dans « Inventer sa chambre à soi », un autre ouvrage qui paraît chez Rivage, où vous parlez notamment de Virginia Woolf. Jackie, c'est comme ça qu'on l'appelait, votre mère, c'est une femme du XXe siècle. Et ça passe d'abord par une description de sa brusquerie, ce qui m'a beaucoup frappée, de ses mouvements. Elle cogne, elle bugne, elle casse. Elle fait du bruit.
C'est-à-dire que même dans ses gestes, il y avait le refus de la femme au foyer traditionnel.
C'est-à-dire
qui est là pour à la fois que tout fonctionne bien, mais en douceur, pour être présente et se faire oublier. Être une instance à laquelle on fait appel quand quelque chose ne va pas.
Elle a cette phrase extraordinaire. Elle dit « Rien ne m'énerve comme la patience
». Oui, c'est quelque chose qu'elle me disait. Parce que moi, je suis extraordinairement patiente. Évidemment.
Évidemment.
Et mon jeu favori, c'était de découper les figurines dans les journaux. Et je pouvais passer des heures et des heures. Ou bien jouer avec les aiguilles de pin. Tout ce qui était lent et minutieux, j'adorais.
Évidemment.
Et ça la rendait dingue.
Jackie avait une horreur instinctive des assis. Et vous mettez un A majuscule au mot assis, comme s'il y avait le peuple des assis. Il y a le peuple des debout et il y a le peuple des assis. C'est donc une ethnie, les gens assis.
Oui, mais les debout sont aussi ceux qui bougent.
Oui.
Les assis sont ceux qui sont figés là pour un bon moment. Je pense évidemment au texte de Rimbaud. Ne les faites pas lever, surtout, c'est le naufrage.
Donc elle déteste l'école, parce qu'à l'école on reste assis.
Oui, elle fait partie de ses enfants. Elle était une enfant turbulente et elle l'est restée.
Ça vous fait rire. Ça vous fait rire de parler de votre mère-enfant.
Non, quand je dis turbulente, je la vois bouger.
Ouais. C'est vrai. Mais turbulente et indisciplinée au sens où elle refuse aussi des postures assises qui sont les postures des femmes de sa génération. Alors il y a la mère au foyer, mais il y a aussi la sténodactylo, Chantal Thomas,
oui,
pour les femmes de cette génération.
Exactement. Ce qui était ouvert pour les femmes de sa génération, c'était vraiment le certificat d'études.
Oui.
Et au-delà, l'école supérieure ou bien l'université, c'était exclu.
Mm-hmm.
Et presque toutes devenaient sténodactylo. C'était l'unique voie.
Est-ce qu'il insupporte, Jackie, c'est pas tant la position subalterne
non.
que la position assise?
Oui. Et sténodactylo, c'est quand même étonnant, je veux dire, c'était prendre en dictée la parole d'un autre.
D'un homme,
pour le nommer. Donc c'est étonnant que toute cette génération avait ça comme seul avenir.
Vos parents se sont installés à Arcachon, où vous avez grandi. Et votre mère, puisqu'on va parler des couleurs, vous pourriez nous donner les couleurs d'Arcachon?
Les couleurs, je les ai dans les yeux, évidemment, souvent. Elles sont dans les bleus, gris, mais aussi les verts. L'eau peut devenir verte,
oui.
Ce qui est vraiment le contraire de la Méditerranée. Et elles sont très changeantes. Et extrêmement dans les nuances.
Et votre mère a fini par trouver Arcachon triste,
oui,
terne.
Elle l'avait vécu d'abord comme des vacances. Et en y vivant, elle s'est aperçue que c'était pas le quotidien, c'était pas des vacances.
Oui.
Et c'était pas bondir de joie dans les vagues tous les matins. Et elle a pas su... non seulement s'habituer à ça, mais trouver dans cette suite des jours un rebond inventif, comme certaines femmes le font. Et c'est avec amour qu'elles répètent chaque jour les mêmes gestes. Et elle, non. Elle ne supportait pas la patience.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse.
Livré. Chantal Thomas qui aime Juliette Gréco.
Ah oui,
ah oui. Une femme qui a tout pour être heureuse, dit la famille de Jackie. C'est ce qu'on disait d'ailleurs et c'est ce qu'on dit encore souvent. Mais enfin, je ne comprends pas, tu as tout pour être heureuse. Et pourtant, vous, c'est votre enfance, de voir petit à petit plonger Jackie dans la tristesse, dans l'indolence, dans le sommeil, jusqu'à ce qu'elle s'effondre complètement.
Oui, cette phrase et cette histoire d'une femme au foyer qui, au fond, ne supporte pas, je pense qu'elle est liée à sa génération, mais on peut l'étendre au présent. Il y a un silence qui pèse sur ce genre de drame, qui est justement la force du quotidien et des choses. Et les couples s'en remettent aux décisions concrètes, à l'achat, au déménagement, pour se dire quelque chose ou ne pas se dire quelque chose. Mais il n'y a aucune confiance et peut-être aucune liberté de langage. Et c'est on pourrait dire que c'est une sorte de chape de silence qui précipite ces femmes au foyer, mais avec une douleur partagée et indicible pour l'homme aussi,
et pour
dans
l'enfant,
la dépression.
Et pour les enfants.
Et
oui,
pour les enfants.
Parce que ce genre de drame, comme vous dites, a un nom, ça s'appelle la dépression. Vous vous souvenez être allé la voir à l'hôpital à Bordeaux. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas dans la famille, c'est qu'elle a probablement subi des électrochocs.
Oui, mais en parlant avec des amis...
On est dans les années 50, à
c'est
ce
ça.
Moment-là Dans
c'est
les
ça.
Années 50
C'est ça.
Oui.
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 Et c'est très répandu. C'est une époque où on faisait des électrochocs pour justement même une très légère dépression. Et c'est d'une violence rare, je trouve.
Oui.
Mais il faut dire aussi que les enfants assistent au drame intime et psychologique de leurs parents sur des modes très divers. Certains sont dans une empathie absolue et sombre et voient la vie en noir avec eux ou avec elles, et d'autres se tiennent justement sur le rivage et voient de loin quelqu'un faire des gestes désespérés, ouais. Et même les interprètent pas. Moi, c'était mon cas.
C'était votre cas. Oui. Et l'histoire de ces 15 pages que vous dédiez à Jackie, c'est l'histoire de vous devenant une femme, grandissant, mûrissant, qui fait le trajet, vous dites, vous allez nager jusqu'à elle, en oui, réalité. Oui. Vous allez nager jusqu'à l'autre rive, vous allez nager jusqu'à Jackie. D'abord, votre père est mort très jeune, il avait 42 ans, vous aviez 16-17 ans,
c'est ça, Alain.
Et Jackie ne porte pas très longtemps le deuil. Jackie, qui n'aime pas les assis, elle sort du deuil et elle s'enfuit d'Arcachon. Oui. Elle s'enfuit littéralement de la grisaille, de la pluie, de l'océan Atlantique, du gris bleu.
Absolument.
Fini.
Elle veut le bleu pur, éclatant. Et elle veut aussi échapper à la répétition fixe des gestes chaque jour. Et je crois qu'elle veut ce pourquoi elle avait choisi Arcachon, un air de vacances. Mmh. Et que, en effet, la menace des assis ne la rejoigne plus jamais.
Plus jamais. Plus jamais. Et ça passe par les couleurs. Ça passe par le sud, la Côte d'Azur, le bleu, le jaune, le orange. Ça passe par le ciel, ça passe par les plantes, ça passe par les fleurs. Ça passe par des jupes bariolées.
Oui, ça c'est on a souvent défini la dépression comme un monde sans couleurs. Un monde aux couleurs ternes, mettons gris-vert, mais presque invisibles, et où tout se fond dans une sorte de même désespoir. Et les couleurs de la Côte d'Azur disent la joie de vivre. C'est à nous d'être capables de les rejoindre, ces couleurs. Ce qui n'est pas évident.
Non.
Moi, quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, cette sorte de bariolage à la Matisse m'a été difficile, parce que j'étais prise dans la délectation de la nuance.
Et il vous faisait peur, ce sud, et donc dans ces 15 pages que vous consacrez à Jackie, il y a la manière dont vous traversez petit à petit pour aller vers l'autre rive, c'est-à-dire vers elle, et puis comment petit à petit vous allez adopter ce sud et cette Méditerranée. Et c'est ce que je disais dans mon introduction, c'est que si on ne sait pas que c'est l'histoire de votre mère, de son émancipation, de son retour à la vie et à la joie, et que c'est l'histoire de la naissance très tardive d'un lien entre une mère et une fille, on ne comprend pas ce rapport que vous avez à l'eau, aux femmes, à la Côte d'Azur en général.
Oui, mais on l'adopte, mais on est adopté.
C'est vrai. Chantal Thomas, il y a un de vos textes qui a eu un immense succès, qui s'appelle Le journal de nage, où vous racontez comment vous entrez dans l'eau, comment vous déployez chacun de vos membres, que cette sensation de nager dans la mer, M-E-R-E. Il y a ce texte dont nous parlons ce matin, Femme sur fond d'azur, vous parlez de la reine Victoria, vous parlez de Colette, qui s'est elle aussi émancipée sur la Côte d'Azur. Colette, quand elle est arrivée sur la Côte d'Azur, pour la première fois de sa vie, elle ne se définissait pas vis-à-vis d'un homme. Et ça a été un tournant magistral dans sa vie.
Absolument. Quand elle achète l'Atreille Muscat, elle a déjà été mariée deux fois. Et elle dira cette phrase que maintenant, elle sait être seule sans se sentir esselée. Et cette maison, elle l'achète avec son propre argent. C'est la première fois aussi. Et elle va découvrir le Sud grâce à son dernier amour, avec qui elle a une relation qui, pour une fois, n'est pas d'emprise, n'est pas de dépossession et d'attente. et qui va être plutôt une sorte de jeu entre amitié profonde et envie de découvrir.
Et vous,
et ça c'est merveilleux.
Vous arrivez sur la Côte d'Azur et d'abord vous êtes choquée. Oui, il y a ce chatoiement de couleurs, mais vous êtes choquée de voir votre mère souriante, votre mère heureuse. Elle a passé son permis de conduire.
Oui, non, sans mal d'ailleurs.
Oui, mais elle l'a. Elle roule en deux chevaux, ce qui est un signe énorme dans les années 60.
Mais oui, la deux chevaux aussi, c'est complètement symbolique de ces années, je trouve.
Oui.
Et elle conduit, elle, alors qu'elle était conduite. C'est très très fort comme passage.
Elle ne boit pas le thé, elle boit l'apéritif.
Oui.
Du vermouth blanc.
Blanc, absolument. C'est aussi un signe, je trouve... À travers elle, je crois que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître. Parce que chacune des autres femmes, les cinq autres femmes, sont célèbres.
Mmh. Et très célèbres.
Ont une œuvre, etc. Elle, comme la majorité des femmes, leur seule œuvre possible, c'est leur vie. C'est quel choix elles vont faire qui fait qu'elles s'épanouissent ou bien qu'elles se racornissent. Et donc, je pense qu'elle est, elle est celle qui n'est pas célèbre, mais aussi celle qui touche la majorité.
Et alors, ce qui est très beau dans ce texte, c'est que vous dites que petit à petit, quand ce lien maternel s'est fait, alors qu'il ne s'était pas fait jusqu'à présent, vous dites « j'ai changé, j'ai aimé cette femme, ma mère, qui me disait en passant, devant le Winter Palace, la résidence Montfleury, la villa Anastasia, le Riviera Palace, la résidence impériale, la villa Cyrnos, les histoires des autres, moi, tu sais, ça ne m'intéresse pas. » Et vous rajoutez, Chantal Thomas, comme si ces histoires risquaient de la faire arriver en retard à la plage.
Oui, c'est une phrase qui m'avait évidemment fait un grand effet, puisque tous ces palais, toutes les rues, les parcs, moi ce que j'adore, c'est qu'il y ait un feuilletage de temps et qu'il soit pris dans l'histoire. Et j'adore les histoires, aussi bien contemporaines que passées. Et cette désinvolture, de même qu'elle était absolument... Les livres ne l'intéressaient pas une seconde. Elle n'avait jamais envie d'ouvrir un livre. Non, les histoires des autres ne l'intéressaient pas.
Mmh. Mais vous n'avez pas peur d'arriver en retard à la plage. Vous prenez le temps de raconter les histoires des autres et les histoires de ces femmes, comme ce portrait que vous consacrez à Catherine Mansfield, qui est magnifique.
Qui a été ma découverte. Et celle qui, tout au long, d'une certaine façon, m'a donné envie de pleurer parce que j'ai eu l'impression de lire ce qu'aurait pu être ma propre histoire si j'avais vécu au début du 19e siècle.
Il y a une phrase de fin des 15 pages que vous consacrez à Jackie. Je trouve cette phrase absolument éblouissante. Vous écrivez, Chantal Thomas, « Ma mère, une femme qui, même chaussée, donnait toujours l'impression de marcher pieds nus. »
Elle m'est arrivée en un éclair, cette phrase. C'était le soir, je venais de dîner, seule, et j'étais en train d'arranger des fleurs. Et c'est très étrange, j'avais pas le texte n'était pas fini, et cette phrase est arrivée. Et je l'ai notée, et j'ai compris qu'elle m'advenait.
Même chaussée, elle donnait l'impression de marcher pieds nus.
Et là,
je me suis dit que vous qui aviez commencé ce texte en racontant à quel point elle était brusque, cette femme, à quel point ses gestes étaient brutaux, eh bien là, vous aviez épousé son corps, en fait.
Oui, sans doute.
Et sa silhouette, son corps, son allure.
Bien, je m'étais identifiée à sa silhouette.
C'est ça. Merci Chantal Thomas.
Merci
d'être venue sur France Inter ce matin. Ces femmes, donc, sur fond d'azur, paraissent au seuil. Il y a la reine Victoria, il y a le Winter Palace, il y a Catherine Mansfield, il y a Colette, il y a Jackie, il y en a encore d'autres. À l'origine, c'était une série parue dans les pages du journal Le Monde et vous en avez fait un livre, vous l'avez prolongé et vous avez bien fait. Merci Chantal Thomas.
Merci.
Je veux pas de joujou. Non, je veux.
Je veux pas d'opéra. Je veux pas de frou-frou. Juste ce mec-là. Point basta. Karim veut boum boum baby, boum boum baby. Boum boum baby, boum boum baby. Boum boum baby, boum boum baby. J'en suis fou. Ah, boum boum baby, boum boum baby. Boum boum baby, boum boum baby. Boum boum baby, boum boum baby. J'en suis fou. Ce love tempo, c'est mon poème. Ah, le plus cool des je t'aime. Je veux pas changer de disque. J'm'enroule en boucle. Give me ce mec là.
C'était le clin d'œil de Juliette Armanet à Lenny Kravitz, c'est Boum Boum Baby et c'est Juliette Armanet. Donc, dans le mag de la grande matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter, l'abstention menace. Mmh. Elle a commencé avec les européennes, puis la présidentielle, maintenant les municipales. Donc je mets en garde les syndics de copropriété. Ah. À la prochaine AG, prévoyez pas trop de biscuits apéro.
Bien.
Mon petit conseil.
Daphné Burki, bonjour.
Bonjour, moi j'ai un super conseil aussi, c'est ma nouvelle tête à 9h50, il s'appelle Valérie Carnoy. Il signe un premier film merveilleux qui s'appelle La danse des renards. Il faut absolument que je vous le présente.
Absolument.
Avec joie, avec joie.
Il est 9h29 sur France Inter. C'est l'heure du débat du jour.
La question n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre les ayatollahs. Personne ne l'est, certainement pas le peuple espagnol et bien sûr le gouvernement espagnol non plus. La question est plutôt de savoir si nous sommes du côté du droit international et par conséquent du côté de la paix. Non à la guerre.
Non à la guerra, non à la guerre. Quatre mots prononcés le 4 mars par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Réponse directe à Donald Trump. Quatre mots devenus un slogan et pour certains le porte-voix d'une Europe qui refuserait de s'aligner automatiquement sur Washington. Alors l'Espagne est-elle devenue la nouvelle figure de ce pacifisme européen ? Est-elle devenue le nouveau modèle d'une résistance à l'Amérique trumpiste ?
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Voilà, et avec un maximum de pédagogie, on va essayer de comprendre ce qui se joue en Espagne ces dernières semaines avec Arantxa González. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Voilà, vous avez été ministre des Affaires étrangères espagnole, vous êtes aujourd'hui doyenne de l'École des Affaires internationales à Sciences Po. En France, donc. Benoît Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'Espagne. En quelques mots, d'abord, j'aimerais que, pour nos auditeurs qui seraient peu familiers de la politique espagnole, que vous nous disiez qui est Pedro Sanchez. J'ai une chronique dans Le Monde, par exemple, publiée hier, revenait à 2014 en disant « cet inconnu de Pedro Sanchez, cet inconnu à la tête de l'Espagne ». Arantxa González.
Bon, c'est un Premier ministre social-démocrate. Un peu funambuliste parce qu'il est à la tête d'un gouvernement en coalition en minorité. Donc c'est quelqu'un qui sait la valeur de tisser des compromis,
oui.
Toujours difficiles, de plus en plus difficiles en politique, mais ce qui permet à l'Espagne d'être gouvernée aujourd'hui, d'avoir une croissance de plus de 2% et de surfer sur des difficultés politiques qui sont les clivages entre des extrêmes de plus en plus plus polarisé.
Alors, des extrêmes de plus en plus polarisés. Vous le décrivez comme un social-démocrate, et c'est quand même lui qui est à la tête du Parti Socialiste Espagnol, Benoît Pellistrandi.
Oui, il est à la tête. Il est le dernier Premier ministre de gauche d'un grand pays européen.
C'est ça.
Avec un Parti Socialiste qui résiste, qui est autour de 30% des voix aux dernières élections. Alors, les sondages montrent qu'il a un peu reculé, mais il reste, d'abord, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, ne l'oublions pas, est un parti de gouvernement. Sur les 40 dernières années, il a gouverné 28 ans. Mm-hmm. Donc c'est un grand parti de gouvernement. Alors la singularité de Pedro Sanchez, c'est qu'il est arrivé au pouvoir en 2018 à la faveur d'une motion de censure. C'est la première fois que ça fonctionnait. La motion de censure est constructive en Espagne. Donc il y a eu un changement de majorité en cours de législature. Et il est un survivant politique. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de difficultés, mais à chaque fois il s'en sort au grand dam de l'opposition de droite. Ça fait d'ailleurs monter l'extrême droite, qui est forte aujourd'hui, autour de 20% des voix. Mais c'est un homme aussi qui a compris les dynamiques du Parti Socialiste. Et vous disiez le non à la guerre. Il s'origine dans le refus, en 2003, de l'aventurisme américain en Irak. Et nous sommes le 12 mars, donc ça fait exactement 22 ans, jour pour jour, hier.
Il y avait hier, le 11 mars. C'était l'anniversaire des attentats du 11 mars à Madrid.
Et donc, je crois qu'il est très important de comprendre que les Espagnols ont payé dans leur chair le prix des aventures en politique extérieure. Ça explique pourquoi il y a un sentiment pacifiste très fort dans la société espagnole.
Et ça, je pense que l'opinion française n'a pas forcément cette date du 11 mars, comme vous l'avez, Arantxa González, gravée absolument. Il faut rappeler que le 11 mars 2004, 191 morts, 4 trains minés de bombes, près de 2000 blessés, c'était un matin aux alentours de Madrid. Et c'était vraiment faire payer à l'Espagne son engagement aux côtés des Américains en Irak. C'est ça?
Alors, c'était les moments où l'Espagne, contrairement à des moments précédents, a décidé de s'engager dans une guerre offensive. Parce que l'Espagne est pacifiste, mais elle a aussi un engagement à défendre l'Europe, à défendre l'OTAN, à défendre les intérêts et les valeurs européens. Mais c'était la première fois qu'elle allait dans une guerre offensive. Elle s'est alignée à côté de George Bush, de président américain, du premier ministre britannique.
Et l'Espagne était gouvernée par la droite à l'époque.
Et l'Espagne était gouvernée par les conservateurs, par la droite.
José María Aznar.
Il a engagé l'Espagne dans une guerre qui n'était pas soutenue du peuple espagnol. N'oublions pas que l'écrasante majorité des Espagnols, de droite comme de gauche, des entrepreneurs comme des syndicats, l'Église, tout le monde était contre cette guerre d'agression en Irak.
Mais aujourd'hui, vous dites l'un et l'autre qu'il y a, dans le souvenir de ces attentats, un plus jamais ça de la part de la classe politique espagnole et de l'opinion populaire, un plus jamais ça. Ce non à la guerre et d'où ce non à Trump.
Il y a aujourd'hui plus de 70% des Espagnols qui disent non à cette guerre offensive en Iran aujourd'hui, ce qui était l'Irak de 2003, ce qui explique aussi le pourquoi de ces positionnements espagnols de Pedro Sanchez, non à la guerre, c'est-à-dire non à cette guerre.
Benoît Pellistrandi, il faut que vous nous racontiez aussi que l'Espagne a une relation particulière avec le Moyen-Orient, qu'on connaît peut-être mal, nous les Français. On sait par exemple qu'en mai 2024, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ça a fait couler beaucoup d'encre, décident de reconnaître ensemble la Palestine comme un État.
Oui, tout à fait. Et on a appris il y a quelques jours que l'Espagne avait définitivement retiré son ambassadrice à Tel Aviv. Elle l'avait rappelé pour consultation au mois de septembre et il a été mis fin à ses fonctions. Donc il n'y a plus de représentant. Enfin, il y a une ambassade, bien sûr, mais pas au niveau d'ambassadeur. Donc les relations entre Madrid et Tel Aviv sont effectivement mauvaises. Alors, il y a eu toujours un tropisme pro-arabe de la diplomatie espagnole qui a commencé sous le général Franco, qui s'est
poursuivi... Sous le général Franco,
oui, le général
qui est mort
Franco,
en 1975.
Qui meurt en 75, mais qui est hostile à la création de l'État d'Israël, non pas tellement pour des questions d'antisémitisme, mais il se trouve qu'en 1949, le Brésil propose que l'Espagne entre à l'ONU. Elle n'était pas entrée en 1945, puisque c'était une dictature. Or, Israël s'y oppose. Et ça, Franco ne l'a pas supporté. Et en plus, il y a aussi le problème de la fourniture des matières premières, et notamment du pétrole. Et Et juste une anecdote, mais quand Franco meurt en 75, il n'y a que trois chefs d'État étrangers qui sont présents aux obsèques du général Franco, le général Pinochet, on comprend, Régnier III de Monaco, et le roi Hussein de Jordanie.
Et le roi Hussein de Jordanie.
Le roi Hussein de Jordanie.
Donc, aux obsèques de Franco.
Il y a un lien très fort. Et ne l'oublions pas, le roi Juan Carlos, ensuite, a eu des relations avec les monarchies du Golfe extrêmement fortes et qui sont liées aux impératifs de livraison de pétrole.
Est-ce qu'on peut dire, pour autant, Arantxa González, que le gouvernement Sanchez, que l'Espagne, aujourd'hui gouvernée par les socialistes, soutient le régime des Mollahs?
Mais bien sûr que non. L'Espagne a été en première ligne pour adopter les sanctions les plus dures contre le régime de Mollah quand l'Union européenne l'a proposé, contre des sanctions contre les violations de droits de l'homme en Iran qui sont exécrables, contre des personnes du régime iranien. Donc il ne faut pas confondre la défense des principes qui sont les principes du droit international, parce que Et la défense d'un supposé régime des Mollahs qui n'est certainement pas ce que veut le peuple espagnol. Mais je voudrais revenir à cette idée comme quoi on fait l'amalgame des choses, mm-hmm. ce qui est trop mm-hmm. facile. Mm-hmm. Dire aujourd'hui non à la guerre, ça ne veut pas dire s'aligner du côté des Mollahs iraniens. Ça veut dire s'aligner du côté du droit international. Alors j'entends dire...
Alors je vous pose la question à l'inverse. Est-ce qu'aujourd'hui dire non à Trump, non à la guerre des Américains et des Israéliens, est-ce que ça veut dire devenir le leader des non-alignés, dans le jargon de la géopolitique, de ceux qui refusent de suivre systématiquement Washington?
Disons qu'il s'agit de se positionner quelque part. Ouais. Et les quelque part, aujourd'hui, l'ancre de l'Espagne, c'est de se positionner du côté du droit international. Parce que, et le faire en Ukraine, et le faire au Venezuela, et le faire en Groenland, et le faire à Gaza, et le faire en Iran. Pourquoi
donc
ça?
Donc se positionner du côté de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU.
Pourquoi ça? Parce que si on n'a pas cette ancre, quelle est la différence entre Poutine envahissant l'Ukraine et la guerre en Iran? Si on n'a plus de repères, alors quelle est la différence entre agresseur et agressé?
Alors, je vous pose quand même la question qui fâche Benoît Pellistrandi. Est-ce que l'Espagne avait vraiment le choix? Est-ce que l'Espagne est une puissance militaire? Ça sera ma première question. La deuxième question, c'est quand même un gouvernement qui est affaibli aujourd'hui, celui de Pedro Sanchez. Il y a tout un tas de scandales en Espagne, de scandales de corruption, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une part quand même de stratégie électoraliste, puisque vous nous dites, Arantxa González, que quand même l'opinion est profondément contre cette guerre? Benoît Pellistrandi.
À l'évidence, Pedro Sanchez est un politicien très habile.
Oui.
Donc, il a compris, effectivement. Qu'avec le non à la guerre, il remobilisait un électorat progressiste qui risquait de l'abandonner, parce qu'il y a un facteur d'usure du pouvoir, que même si les résultats économiques et sociaux sont bons, voire même très bons, il y a un climat politique qui n'est pas bon et qui porte atteinte...
Donc c'est de l'opportunisme ?
Alors non, ce n'est pas que de l'opportunisme, parce que Arantxa González a dit quelque chose de très important. Il y a une tradition diplomatique qui forme partie de l'identité démocratique de l'Espagne. Après le franquisme, la démocratie espagnole a voulu rejoindre la communauté internationale, d'où l'importance de l'entrée dans les instances européennes, et ensuite a voulu participer aux missions de l'ONU. Et donc, la force militaire espagnole, elle se pense toujours de manière multilatérale et coopérative. C'est-à-dire que l'instrument militaire espagnol n'est pas là pour mener des guerres offensives, c'est ce que vous avez dit, mais pour contribuer à réparer le désordre international. Il y a par exemple des forces espagnoles qui étaient présentes au Liban, qui ont été présentes dans beaucoup d'opérations humanitaires aussi en Afrique. Et ça,
il y en a encore aujourd'hui, en Lituanie par exemple.
Qui sont au Liban aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les bombes tombent sur le Liban, les casques bleus espagnols sont là. Donc, ce n'est pas du pacifisme. C'est la guerre a aussi des règles. Et il faut suivre les règles de la guerre aussi.
C'est ça. C'est pas du non-alignement, c'est pas du pacifisme. Non. C'est bien, on aura fait tomber tout un tas de clichés qu'on entend dans les médias depuis un mois.
C'est vraiment, ça fait partie de l'identité de ce qu'a voulu être l'Espagne. L'Espagne a réussi une transition démocratique dans la paix et elle veut représenter ce modèle-là. Alors, bien entendu, pour reprendre votre question, un des handicaps de l'Espagne, c'est sa relative faiblesse géopolitique. Ne nous trompons pas, ce n'est pas une grande armée, elle est méprisée naturellement par Donald Trump, mais justement, c'était le soft power. Et un soft power qui n'était pas simplement espagnol, mais qui était adossé à cette idée européenne. Et ça, je crois que c'est très important, et dans le monde si compliqué dans lequel on est, c'est quand même relativement rassurant de se dire n'oublions pas cette voix européenne qu'il faut essayer de faire vivre.
Et je vous pose une dernière question, Arantxa González. Est-ce que l'Espagne peut servir de référence pour la gauche européenne aujourd'hui, vous qui avez été donc ministre de Pedro Sanchez?
Je crois que la gauche européenne aujourd'hui doit porter ses valeurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts. Nous devons défendre nos intérêts en tant qu'Européens, mais nous avons aussi des valeurs à porter. Et la gauche européenne doit être là à rappeler que la projection extérieure de l'Union européenne, ce n'est pas simplement nos valeurs. C'est pas simplement nos intérêts, c'est aussi nos valeurs. En ces moments où on essaye de les détricoter, voire de les détruire et de les mépriser, il faut être là pour porter ces valeurs européennes aussi en haut. C'est ça le rôle de la gauche européenne aujourd'hui.
Je vous remercie tous les deux, Benoît Pellistrandi. Je rappelle que vous êtes historien, Arantxa González, ancienne ministre et aujourd'hui doyenne à Sciences Po de l'École des Relations Internationales. Je crois qu'on aimerait avoir des professeurs comme vous tous les jours, pour mieux comprendre les complexités de l'actualité. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre sens incroyable de la pédagogie. Merci à tous les deux, vous restez avec nous dans un instant. Et Charline Vanhoenacker et Daphné Burki et La Nouvelle Tête. Super superstar de la pop britannique, c'est Harry Styles. Il a annoncé une grande tournée à compter du mois de mai. Pas de date française, des grandes résidences dans une dizaine de pays. Bon, il y en aura à Amsterdam, il y en aura à Londres.
On voyage.
Ben voilà, on voyage, on voyage pour aller danser. Comme ça, on s'offre un petit plaisir. Il est 9h45, vous êtes toujours dans le MAC de la grande matinale. Charline Vanhoenacker, votre bilan de la campagne pour les municipales, c'est le moment.
Combien de fois a-t-on entendu dire que les municipales, c'est le premier tour de la présidentielle? Non ! Vous croyez quoi ? Que dimanche à 20h, quelqu'un va dire « Alors oui, 2027 semble plié, puisque Bernard Muffin a recueilli 46% des voix à Bréville-la-Gouttière, ce qui envoie un message assez limpide aux autres partis. » Non ! Les municipales, c'est 34 874 présidentielles. C'est 34 874 fois plus de chances de voir des promesses non tenues ou des appels à faire un barrage qui ne servent à rien. Je suis certaine qu'il y a des gens qui ont oublié qu'on vote dimanche. Et lundi matin, la machine à café, ils vont être là. Oh, t'as vu, hier, l'école était ouverte. Ils font des réunions parents-prof le dimanche, maintenant. Alors qu'il faudrait saisir cette opportunité, parce que les municipales, c'est une fois tous les 6 ans. Un maire, c'est pas comme un premier ministre, hein, on peut pas en changer toutes les trois semaines. En plus, cette fois, il y a des chances pour que le résultat du vote soit respecté. Ne laissons pas passer cette occasion. Et pourtant, je vois bien les efforts de la rédaction de France Inter pour intéresser les auditeurs municipaux. Il y a même des journalistes qui ont fait des reportages à vélo. Mais même ça, les gens s'en foutent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Débarquer sur la place du village en roue arrière? Sur les 34 800 communes, il y en a presque 24 000 où il y a un seul candidat. Vous imaginez les débats? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Bon, allez, Dédé, maintenant tu descends de là, tu vois bien que tu es tout seul. Ok, bon, apéro? Apéro. Il y a même 68 communes sans aucun candidat. Et c'est le cas, par exemple, à nom de ville ou à nom de ville. Hein, j'ai oublié de compléter, pardon. Zéro candidature, c'est même plus des déserts médicaux, c'est des déserts municipaux. On en est au point où l'abstention touche même les candidatures. Dimanche, vérifiez bien que si votre commune a une liste pour aller voter, là, parce que je dis ça au cas où votre beau-frère partira en plein repas dominical. Je vous laisse, faut que j'aille voter. Ah ben vous saurez qu'ils ne vous aiment pas du tout. Dans ces communes, la préfecture a encore 3 mois pour trouver un candidat qui se dévoue. Alors ça, c'est le risque de se retrouver avec Manuel Valls à la tête de la commune. Vraiment, j'aurais prévenu. Je suis quand même pas la seule à être passionnée par les municipales, rassurez-moi enfin, Daphné.
Non, moi je suis à fond.
Daphné, qu'est-ce que j'avais écrit sur votre feuille?
Dire avec enthousiasme, non, moi je suis à fond.
Merci. C'est sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter pour le niveau d'abstention, parce que déjà, il n'y a pas de candidat, mais en plus, il n'y a plus de carburant dans la Twingo pour se rendre au bureau de vote. À Marseille, on compte un nombre suspect d'électeurs centenaires. D'après Le Canard Enchaîné, il y aurait 785 électeurs âgés de plus de 100 ans. Alors, ok, le pastis, ça conserve, mais ça fait beaucoup, d'autant que 6 d'entre eux ont entre 115 et 121 ans, alors que la doyenne des Français a 113 ans. Alors, on connaît les Marseillais, leur propension à l'exagération, mais là, on ne parle pas du vieux port, on parle du très très vieux port. Méfions-nous, parce que dimanche, c'est peut-être Jean-Claude Gaudin qui sera réélu.
34 800 communes.
Évidemment, désolé.
Charline Vanhoenacker qu'on retrouve samedi à 19h15 pour Bistroscopie avec André Manoukian.
Oui.
Mais quelle joie.
La grande matinale sur France Inter.
Allez, Charline Vanhoenacker, c'est fini. Maintenant, c'est Daphné Burki et c'est sa nouvelle tête.
Elle est en place, ma nouvelle tête, puisqu'il est 9h49 et nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ma nouvelle tête ce matin s'appelle Valérie Carnoy. Il est cinéaste et il déboule avec un premier film d'auteur, mais avec de l'action et de la sueur. Et c'est réussi. Je suis pas la seule à le dire. Hein. Le film a été particulièrement bien reçu déjà au dernier festival de Cannes. Et il y a beaucoup de choses qui m'intriguent dans le parcours de ma nouvelle tête. Vous allez comprendre, il devait être footballeur. Il a finalement étudié la psychologie et aujourd'hui il est cinéaste avec un talent caché qui ne me déplaît pas. Il sait imiter Garou quand il chante pour une fin de soirée ou peut-être pour une fin d'entretien. On verra bien. Bonjour Valérie Carnoy, fallait pas me répondre ça dans le questionnaire. Bienvenue sur France Inter.
Ben, bonjour.
Vous alliez partir en Garou dès le départ?
Non, quand même pas.
Non,
enfin, je peux. Hein, mais...
Votre premier film s'appelle La danse des renards. Il sort mercredi prochain. Ça fait des mois que vous attendez ce moment. Comment ça va?
Bah, content que ça sorte enfin. Depuis mai de l'année passée. C'est long.
Il y a du trac?
Il n'y a plus de trac. Il y en a eu, mais il n'y en a plus maintenant.
On raconte l'histoire. Parce que si je dis la danse des renards aux auditeurs, bon, je ne sais pas ce que vous allez imaginer, mais ça doit être hyper joli dans votre tête. Non, sur l'affiche, on voit le visage d'un jeune boxeur qui tire la langue. Il s'appelle Camille, c'est un boxeur prodige dans un internat sportif, interprété par le brillant Samuel Kircher. À l'approche d'une compétition décisive, il y a un accident qui va briser son élan. Il chute d'une falaise. Il est sauvé par son meilleur ami. Officiellement, il est rétabli. Mais il reste traversé par une douleur inexplicable, une douleur que la médecine ne reconnaît pas, bande annonce.
Arrête de faire le clown là, tu vas énerver les juges, putain!
Bac-moi ça. 40 mètres carrés, à Paname.
Moi là, je peux avoir ça là.
Bien sûr, tu peux avoir ça, mais faut que tu gagnes aussi. Je te le dis, moi, ta réussite, c'est ma réussite, gros. C'est nous deux, frère.
Je vois aucune lésion qui puisse expliquer tes douleurs.
J'ai l'impression que depuis que t'as repris, t'es pas motivé, y'a rien là.
C'est mon bras, c'est toujours mon bras.
Tu sais, ils disent quoi, les PFNSR sur toi?
Que depuis ton accident, t'as peur. Et tu simules.
Les championnats, ils sont dans 6 semaines.
C'est dans ta tête, tout ça.
Il est intense, très... hein.
Mais il est intense, ce film. Bon, comme vous, j'imagine. Dans ce film, on est à la limite du documentaire. Enfin, c'est ce qu'on ressent, évidemment, quand on le voit. Et c'est pas un hasard. Donc, j'ai compris que vous aviez fait un casting sauvage. Vous avez écumé les clubs de boxe pour rencontrer des adolescents qui n'avaient encore jamais joué la comédie.
Alors, c'est la directrice de casting, Alicia, qui a écumé les clubs. Moi, je suis resté sur mon canapé en attendant qu'elle trouve toutes ces petites perles. Donc, il faut rendre à César ce qui lui appartient.
Ah, mais vous en avez rencontré combien ?
Elle en a rencontré énormément.
Ah oui.
Moi, au final, je n'en ai vu qu'une centaine de profils. Sa best sélection, mais voilà. On avait très envie d'avoir de vrais athlètes, parce que voilà, même si c'est un film sur l'amitié, un film nerveux, l'arène, c'est quand même la boxe. Donc il fallait de vrais boxeurs, parce que voilà, former des jeunes qui n'ont jamais fait de boxe à la boxe, c'est complexe. Et on n'avait peut-être pas assez de moyens pour ça. Donc voilà, on est allé chercher plein de petites perles dans tous ces clubs de la périphérie de Paris.
Et il y en a quelques-uns qui vont exploser dans cette bande, mais il y a Samuel Kercher qui, lui, s'est entraîné pendant des mois. Alors, vous avez raison, c'est pas tant un film sur la boxe que sur les traumatismes. Et là, je pense à des auditeurs qui vont peut-être se reconnaître. Après un accident, on peut garder une douleur que personne ne voit. On appelle ça une douleur fantôme. Et ce film, il parle aussi d'une histoire personnelle. Finalement, j'ai cru comprendre que vous, adolescent, vous avez intégré une classe sport-études en football et vous avez eu aussi un accident qui a brisé finalement cette trajectoire.
Bah, je ne sais pas si elle l'a brisé en tout cas, mais l'accident m'a plongé dans une telle période de faiblesse qu'évidemment, très jeune, quand moi j'avais 15 ans, bah, vous remettez un peu tout en question. Parce que vous savez, vous n'êtes plus le jeune homme que vous étiez, vous n'êtes plus l'ado que vous étiez. Et puis vous êtes tellement... Moi j'avais une anémie, j'avais perdu beaucoup de sang pendant l'accident, donc j'ai eu une longue anémie. Et donc du coup, pendant cette anémie, j'étais très faible. Quand vous êtes faible, vous êtes beaucoup plus sensible. Et quand vous êtes plus sensible, voilà, vous voyez votre monde et ce qui vous entoure complètement différemment. Et voilà, j'ai peut-être moins aimé l'univers de l'internat, toutes les injonctions de mon groupe et tout ça. Et voilà, j'ai fini par tout quitter et je suis reparti vers l'enseignement normal. Donc voilà.
Et justement, vous avez complètement changé puisque vous avez ensuite fait des études de psychologie à l'Université libre de Bruxelles. La psychologie sociale, celle qui observe les mécanismes d'appartenance et d'exclusion dans les groupes. Est-ce que c'est ce regard-là qui vous a aidé à diriger cette bande de garçons ?
Non, je pense pas. Mais la psychologie, ce qu'elle m'a, elle m'a appris, et c'est parce qu'au final, pour devenir psychologue, faut exercer, faut avoir pas mal d'expérience pour même être bon. Et donc moi, ce que ça m'a plus appris, c'est que quand vous faites 5 ans de psychologie, vous apprenez à tout désacraliser. C'est-à-dire que les humains, bah, vous n'en avez plus tellement peur, quoi. Vous apprenez un peu l'altérité d'une certaine manière. Donc voilà, maintenant je suis posé, quoi. J'ai plus tellement peur des gens, même de vous.
J'espère que vous n'avez pas peur de moi. Comme dirait ma mère, je suis vachement sympa. Il y a une bascule. Elle ne dit pas du tout ça, la Katiche. Il y a une bascule. Vous entrez à l'Institut supérieur donc des arts du spectacle à Bruxelles, l'INAS, et puis vous devenez cinéaste. Mais si on remonte encore plus loin, vous racontez que le point de départ de votre imaginaire, bah, il vient de votre père. Il vous racontait l'histoire d'une fée invisible, Rosalie, qui serait la sœur adoptive de vous et de vos frères, dont vous avez une sœur imaginaire. Elle est toujours là, Rosalie ?
Non, elle n'est plus là, mais pendant pas mal d'années, avec mon frère, on devait la saluer. Donc non. On saluait le vide, ouais. Mais c'était pas mal, parce qu'en gros, mon père nous disait qu'elle était extrêmement maladroite, comme elle avait perdu sa mère très jeune. Donc elle maîtrisait pas bien sa baguette magique. Et donc chaque fois qu'on le voyait, car mes parents étaient divorcés, eh ben, il fallait résoudre les problèmes de Rosalie, donc les quelques conneries qu'elle avait réalisées. Et donc on partait et on essayait de résoudre les choses. Donc il pitchait, c'était une sorte de pitch qui lui permettait de nous divertir d'une certaine manière, quoi. Mais on y a cru quand même pas mal de temps.
Ah oui, mais vous y croyez plus ?
Bah, malheureusement, j'y crois plus. Mais voilà, je l'ai enterré, mais...
Mais quelle matière formidable pour une psychanalyse.
C'est dit, vous lui avez déjà chanté du Garou à Rosalie ?
À Rosalie ? Non, quand même pas. Je lui disais qu'elle était belle.
Ah, quand même. Alors moi, je vous ai proposé une carte blanche. C'est marrant, vu ce que vous venez de me raconter. Vous avez choisi Gilles Deleuze dans l'abécédaire. Alors on va mettre un petit son que vous aimez bien, qui vous accompagne.
Donc tout d'abord, c'est un texte d'un documentaire qui est l'abécédaire, et donc il parle de manière orale. Donc je ne sais pas si je vais le faire aussi bien que lui, mais il dit « Les gens n'ont de charme que par leur folie. Voilà ce qui est difficile à comprendre. Le vrai charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils ne savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire. Ce sont des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu ne saisis pas la petite racine ou la petite graine de folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. » On est tous un peu déments, et j'ai peur, ou je suis bien content, que le point de démence de quelqu'un soit la source même de son charme.
C'est très très joli. Moi je voudrais dire quelque chose. Donc Gilles Deleuze, c'était un très grand philosophe français, et il avait une voix très particulière, une voix qu'on reconnaît entre mille. Et je pense qu'il n'y a que vous, avec votre voix très particulière qu'on reconnaît entre mille, qui pouvez faire la voix de Gilles Deleuze, ou en tout cas essayer de s'en approcher.
Pour être honnête, j'avais envie de faire exactement comme lui, mais je me suis dit, ça ne va pas le faire. je vais faire avec mon style. Quoi. Donc un peu granuleux, voix cassée, et je ne fume pas, hein, parce que voilà.
Il y a une chanson qui vous accompagne en ce moment, c'est une chanson italienne de Lucio Battisti. C'est une chanson culte en Italie qui parle d'une chose très simple et très belle d'ailleurs, parce qu'en fait elle parle justement de se libérer du regard des autres, des règles, des injonctions du monde pour trouver un espace où on pourrait être libre. Et je trouve qu'il rejoint d'une certaine façon aussi votre film La danse des renards.
Non ci vuole più il mio canto libero, sei tu et l'immensità.
Avant de se quitter, j'aimerais savoir si vous avez une dédicace au micro de France Inter ce matin.
Ouais, j'en ai une, mais une personne décédée qui est mon grand-père, donc qui était un inventeur un peu fou, qui était assez génial. Et un jour, il a dit à mon père, donc j'aime bien cette petite histoire, il s'est mis devant un miroir et il a dit à mon père, combien de pères vois-tu ? Mon père, évidemment, a vu son reflet, et mon grand-père, donc il a vu deux pères. Il lui a dit, j'en vois deux. Mais il lui dit, oui, en effet, mais combien de pères as-tu ? Et là, mon père a dit, je n'en ai qu'un. Il fait, en effet, tu n'en as qu'un. Et puis il lui a dit, apprends à regarder avec ta tête et pas avec tes yeux. Et voilà, je pense qu'il a, grâce à ça, c'est un peu le point de départ de l'imaginaire de mon père qui nous a transmis à moi et mon frère, même si mon père n'a pas fait une voie artistique. En tout cas, il nous a bien amusés dans notre jeunesse. Voilà. Donc petite dédicace à la transmission quoi, du grand-père au père, au fils.
Et ben tout l'imaginaire de Valérie aussi, de Valérie Carnot, vous pouvez le retrouver dans ce premier film qui s'appelle La danse des renards, particulièrement réussi. Bravo, à bientôt.
Merci beaucoup.
On n'aura pas eu Garou.
On peut bien sûr. Bon, cadeau pour Sonia, tu vois, s'il moi j'avais oublié mon Garou, mais Garou ça donne quoi?
Je peux faire belle.
Ouais, allez-y.
Non, mais il faut me mettre dans le...
Alors, il faut dire quoi?
Je la connais par cœur, et là, d'un coup...
Belle, ah oui, non, c'est belle.
C'est un nom qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. On me l'a fait faire toute ma jeunesse, et là je dois la refaire.
C'est un petit garou du matin.
On se précipite au cinéma, on va voir La danse des renards, c'est la fin du MAC de La grande matinale.